Alors, lors du dernier G30 qui s'est déroulé chez Marc et Chantal, j'avais partagé un message. Mais vu qu'on avait quand même beaucoup de choses à faire, le planning était assez chargé, j'ai dû aller assez vite. Et j'avais à cœur de reprendre cette méditation, de l'étoffer un petit peu et de la partager avec vous ce matin. Alors, il y a dans ce message, il y a deux volets, deux parties. C'est pourquoi j'ai mis un titre un peu à rallonge. Dieu permet des épreuves dans ma vie, premier volet, mais Dieu connaît mes limites. Alors, comme introduction, nous pouvons prendre 1 Corinthiens 10, 13, qui est vraiment le verset qui illustre. Je pense parfaitement ce que nous venons de dire. Alors moi, je triche parce que je m'ai dessiné. 1 Corinthiens, donc 10, au verset 13, c'est un verset qui est souvent lu. Et c'est bien normal parce que c'est quelque chose qui nous encourage. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alors, lorsqu'on parle de tentation ici, on peut aussi traduire par épreuve. Hein? Donc, aucune épreuve ne vous est survenue. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que les épreuves que nous devons affronter sont celles qui se présentent aussi à d'autres. Elles sont communes aux humains. Donc, aucune tentation, aucune épreuve qui se présente à nous, c'est quelque chose qui s'est déjà présenté à quelqu'un qui se présente habituellement aux humains. Il y a deux choses qu'on peut déduire déjà de ça, c'est que l'épreuve, la souffrance que je suis peut-être en train d'endurer n'est pas propre seulement à ma personne, mais d'autres personnes vivent la même chose, ont vécu la même chose, ont été éprouvées de la même manière. Et une deuxième chose, c'est que cette épreuve, souvent, est à ma portée. C'est ce que aussi Paul veut dire, c'est que nous avons des capacités. Et que les épreuves qui nous sont présentées sont en général en portée humaine. Alors dans la deuxième partie, donc dans la première partie, il nous parle des épreuves, Dieu permet des épreuves dans nos vies, mais dans la seconde partie du verset, il dit que Dieu ne permettra pas que cette épreuve dépasse mes capacités. Paul dit, vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. De vos forces. Donc ça veut dire que nous avons des forces, nous avons des capacités. Cela donc implique logiquement que nous disposons de certaines aptitudes. Nous n'avons pas à nous en glorifier parce que ces capacités que nous avons, nous les avons reçues. Hein, nous les avons reçues de Dieu. Dieu nous a créés avec certaines capacités. Et Dieu, donc, nous n'avons aucun mérite là-dedans. Et Dieu, donc, nous a dotés de certaines capacités qui nous permettent, jusqu'à un certain point, de supporter ces épreuves de la vie. Mais est-ce que nous connaissons nos capacités, qu'elles soient physiques ou mentales, les capacités de notre corps? Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ou regardé une fois ou l'autre une de ces séries d'émissions qui s'intitulait à la télé, qui s'intitulait « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain ». Alors, dans cette série d'émissions, on voit clairement que nous connaissons très mal nos capacités et même que nous sous-estimons nettement nos capacités. Nous disposons de ressources d'aptitudes supérieures à ce que nous pensons. Et c'est vrai que moi, le premier, je vais vite pour dire, oh là là, ouf, je suis pas capable. Hein. Et pourtant, nous avons des résistances, des capacités de résistance insoupçonnées. Capacité de résistance à la chaleur, au froid, à la faim, à la douleur, au stress, à la fatigue. Oui, enfin, en ce qui concerne la fatigue, je connais mes limites, moi. Il ne faut pas s'en faire pour moi, je ne risque pas de me dépasser. Mais, vous voyez, les sportifs, par exemple, avec l'entraînement, ils dépassent constamment leurs limites. Hein. Alors, c'est vrai que nous connaissons très mal nos limites. Par contre, Dieu, lui, nous connaît parfaitement. Il connaît parfaitement les limites du corps humain. Mais pas seulement du corps humain en général, mais il connaît les limites de chacun d'entre nous individuellement. Il nous connaît chacun personnellement. Il connaît nos points forts, nos faiblesses. Il sait jusqu'où on peut aller dans l'épreuve. Il connaît notre capacité de résistance. C'est pourquoi Paul peut dire que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Alors ce verset, c'est un verset encourageant, un des plus encourageants que moi personnellement je peux lire dans la parole. Mais si dans notre vie nous expérimentons cela, c'est-à-dire que si dans notre vie, un jour que nous voyons intervenir Dieu, nous secourir au moment où on était à bout, on était en train de perdre pied, et puis on voit que Dieu nous relève, eh bien, à ce moment-là, ça n'est plus juste des paroles, mais ça devient une promesse de Dieu sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Quelques exemples d'hommes de Dieu qui ont vécu cette situation, cette expérience, où ils ont vu Dieu intervenir au moment où ils étaient au bout de leur capacité. Alors, le premier exemple auquel j'ai pensé, c'était à Moïse. Et nous pouvons lire dans Nombre, chapitre 11, verset 11. Nombre 11, 11, c'est facile à retenir. Alors, nous voyons que le peuple en a assez de recevoir tout le temps, de manger de la manne, tous les jours de la manne. Et il commence à réclamer, il voudrait de la viande comme ils en avaient en Égypte. Et j'imagine que ce n'est pas la première fois que le peuple harcelait Moïse. Et à un moment donné, Moïse, il a essayé d'être patient, mais à un moment donné, il n'en peut plus. Il est arrivé au bout de sa résistance, au bout de ses capacités. Alors, nous lisons Moïse, à partir du verset 10, « Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur ? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple ? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple ? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, « Porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner ? Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple ? Car il pleure auprès de moi en disant, « Donne-nous de la viande à manger. » Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. » Donc vous voyez que l'épreuve commence à devenir au-dessus de ses forces. « Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas, mon malheur. » Alors, voilà, dans cette première partie de la lecture, nous voyons que Moïse interpelle Dieu, il l'interroge, et en lui demandant pourquoi. Et ça, c'est une question que nous nous posons souvent. Hein. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Et pourquoi donc Dieu permet des épreuves dans nos vies? Alors, il y a différentes raisons, je ne vais pas m'apesantir parce qu'on en a déjà parlé dans différents messages. Mais nous pouvons nous rappeler que Dieu permet des épreuves dans nos vies pour diverses raisons. Pour nous enseigner, pour nous fortifier dans notre foi. Pour nous rappeler aussi que nous dépendons toujours de lui, de sa grâce. Pour nous rappeler aussi que le monde dans lequel nous vivons est destiné à disparaître. Et donc que nous ne devons pas trop nous y attacher. C'est vrai que si tout allait bien, on risquerait de s'attacher à ce monde alors que nous devons avoir les yeux vers le monde à venir, le royaume de Dieu. Certaines de ces épreuves aussi peuvent être la conséquence d'un péché, d'un mauvais comportement. Et Dieu peut permettre que nous assumions les conséquences de ce péché, parce qu'on a besoin aussi, par moments, de prendre conscience de la gravité de nos actes. Si nos actes n'ont pas de conséquences, ben, on risquerait de banaliser ces choses. Et donc, c'est important, parfois aussi, qu'il y ait des conséquences. Et ces conséquences occasionnent parfois de la souffrance. Il y a une autre explication aussi que je donne, mais voilà, c'est vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais je pense que si on veut expliquer aussi les épreuves et les souffrances que nous devons parfois endurer dans cette vie, c'est en se rappelant que nous faisons partie d'un monde qui n'est certainement pas parfait. Paul qualifie certaines épreuves qui nous surviennent en utilisant le terme « humaine ». Donc, ça veut dire qu'elles sont propres à l'humanité. Or, Paul nous dit dans Romains 8, au verset 20, « Car la création, l'humanité, qui fait partie de la création, était soumise à la vanité, c'est-à-dire à l'impossibilité d'arriver à quelque chose de parfait. Non de son gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise. » Donc ça implique que le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde dans lequel le péché et la mort sont entrés. Dans Romains au chapitre 5, au verset 12, Paul nous dit, c'est pourquoi « Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue, et dans une autre version, il est dit, a pénétré sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Donc faisant partie de l'humanité, ben, bon, c'est entre guillemets normal que nous devions assumer les conséquences de ce péché. La souffrance, la maladie, la mort. Même les enfants de Dieu ne sont pas épargnés. Encore Paul, dans Romains 8, au verset 22 et 23, nous dit « Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. » Nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc nous aussi, on vieillit, on tombe malade, voilà. On n'est pas privilégié parce qu'on fait partie de ce monde où le péché et la mort sont entrés. Si nous ne rencontrerions pas d'épreuves dans notre vie, est-ce qu'on soupirerait encore après cette régénération? Si on ne subissait pas la dégradation de ce corps avec le vieillissement, est-ce que nous désirerions en être libérés ou est-ce qu'on s'y attacherait? Donc je pense que aussi les épreuves nous permettent de soupirer vers quelque chose de meilleur. Alors Moïse demande aussi à Dieu, pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux? Moi je traduirais ça un peu en disant, tiens, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu ne m'aimes plus? Et souvent lorsque on est dans l'épreuve, on a cette réaction, tiens, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que Dieu est fâché contre moi? Mais même si Dieu est attristé lorsque nous le décevons, il faut se rappeler qu'il n'agit jamais, jamais, jamais pour nous punir, mais plutôt pour nous corriger, pour nous faire prendre conscience de notre action. Alors ça, c'était pour le premier volet. Le deuxième volet, la partie du volet, donc de 1 Corinthiens 10-13, Dieu intervient. Parce que Dieu ne permet pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais Dieu va intervenir. Alors Dieu connaît parfaitement Moïse et il sait qu'il est arrivé au bout du rouleau. Alors il va intervenir. Dieu ne va pas permettre que Moïse soit éprouvé au-delà de ce qu'il peut supporter. Alors il y a une question qu'on se pose parfois, pourquoi est-ce que Dieu attend si longtemps des fois avant d'intervenir? Hein? Et c'est vrai que quand on est dans l'épreuve, quand on souffre, on voudrait bien en être tout de suite libéré, tout de suite délivré. Hein? On voudrait que Dieu intervienne le plus vite possible. Alors pourquoi est-ce que Dieu attend parfois aussi longtemps avant d'intervenir? Peut-être que nous devons apprendre aussi, et que Dieu veut nous apprendre aussi à puiser dans nos réserves, à faire des efforts, à ne pas crier au secours tout de suite comme ça, mais à essayer d'utiliser les capacités qu'il nous a données. Mais au moment où nous avons épuisé, avant d'épuiser nos ressources, Dieu interviendra. Et il faut que nous ayons cette confiance, cette foi que Dieu va intervenir. Et donc de ne pas paniquer quand nous sommes dans les épreuves, parce que nous pouvons douter de nos capacités, mais Dieu les connaît. Dieu les connaît et Dieu sait jusqu'où nous pouvons aller. Il y a une chose dont nous pouvons être certains aussi, c'est que Dieu a toujours une bonne raison et qu'il ne prend pas plaisir à nous voir souffrir. Alors on va peut-être pas lire parce qu'on n'a plus trop de temps. Alors je vais le lire. Dans Lamentations au chapitre 3, au verset 32 et 33, nous lisons « Mais lorsqu'il afflige, c'est-à-dire Dieu, lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers, c'est-à-dire avec plaisir, qu'il humilie et qu'il afflige des enfants, des hommes. C'est toujours pour notre bien. » Alors j'ai pensé aussi à un autre personnage de l'Ancien Testament, au prophète Élie. À un moment donné, il est complètement découragé. On peut peut-être le lire dans 1 Roi, au chapitre 19. À partir du verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y est laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Le chemin est trop long pour toi. Dieu connaît l'épreuve que Élie va devoir affronter. Et il dit, le chemin est trop long pour toi, il faut que tu manges. Cela démontre que Dieu connaît l'état dans lequel se trouve Élie. Et il sait qu'il n'a pas la capacité d'aller plus loin. Alors Dieu intervient, il va le secourir, il va le venir en aide. Et à travers par l'intermédiaire de l'ange de l'Éternel, il va s'adresser à lui. Et certainement aussi qu'Élie a besoin de réconfort. Et alors j'imagine que l'ange de l'Éternel ne lui a pas dit « Lève-toi, mange !» Mais qu'il lui a dit « Lève-toi, mange !» d'une voix réconfortante. Parce qu'il a besoin d'être réconforté, fortifié, consolé. Alors nous lisons plus loin. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alors là, moi j'aimerais bien savoir ce qu'on lui a donné à manger. Qu'est-ce que Dieu lui a donné à manger? Parce qu'il va manger et puis il va tracer pendant 40 jours, 40 nuits. Alors à côté de ça, les produits que prennent les coureurs du Tour de France, c'est de la gnognotte. Hein. C'est du petit lait. Hein. Là, tu manges ça, tu fais le Tour de France en 3 jours. Hein. Mais plus sérieusement, bon, on se doute bien qu'un repas ne peut suffire à un humain pour marcher pendant 40 jours, 40 nuits. Hein. Bien sûr, sauf s'il y a une intervention divine. Alors cela nous rappelle que Dieu peut renouveler nos forces, augmenter nos forces, afin de que nous puissions supporter cette épreuve ou bien la traverser, la vaincre. J'ai pensé aussi à Gédéon. Gédéon, c'est un agriculteur, il est là en train, dans le champ, en train de battre le grain. Je ne sais pas, le froment ou quoi, je n'y connais pas grand-chose. Et voilà que l'ange de l'Éternel se présente et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alors moi, j'imagine Gédéon, avec qui? Moi. Alors, j'imagine sa réaction. Est-ce qu'il n'y aurait pas erreur sur la personne? Parce que moi, je suis le plus petit dans ma famille. Hein. J'ai des grands frères qui sont costauds. Est-ce qu'il ne conviendrait pas mieux libérer, et en plus, libérer le peuple d'Israël? Bon, ben, ce n'est pas non plus une petite affaire. Hein. Et l'ange lui dit, non. Va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Donc ça veut dire que Gédéon a certaines capacités naturelles, on va dire, hein, entre guillemets. Mais elles sont certainement insuffisantes. Mais l'ange de l'Éternel, Dieu, lui dit, va toujours avec cette force que tu as. Va, commence à avancer avec tes moyens, tes propres moyens. Et puis après, moi je suis là. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Lui dit l'ange de l'Éternel. Et alors, nous allons voir que Gédéon va, qui n'a absolument rien d'un guerrier, il n'a vraiment pas dans son caractère la fibre pour être un leader, eh bien ça ne va pas poser un problème à Dieu, parce que Dieu va pourvoir, c'est-à-dire qu'il va lui donner ce qui lui manque. Et donc c'est aussi quelque chose que nous devons nous rappeler, c'est que non seulement Dieu peut augmenter déjà nos capacités naturelles, il peut les décupler, mais il peut aussi nous donner des choses que nous n'avons peut-être pas au départ reçues à la naissance, on va dire. Alors, pour conclure, pour résumer, Dieu permet donc des épreuves dans nos vies. pour diverses raisons que nous avons mentionnées. Mais c'est jamais volontiers, c'est jamais avec plaisir ou pour nous punir. Mais c'est toujours, toujours pour notre bien. Dans Romains chapitre 8, au verset 28, nous lisons un verset aussi qu'on utilise beaucoup. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, c'est-à-dire selon son projet. Donc si vous êtes appelé selon son projet, le projet de Dieu, eh bien, vous devez croire que toute chose concourt au bien, à votre bien. Toute chose, ça veut dire aussi les épreuves. C'est inclus. Donc même les épreuves, même les souffrances concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais jamais, jamais, jamais Dieu ne permettra que cette épreuve, ces épreuves, ces souffrances soient au-dessus de vos capacités. Et si nécessaire, au moment opportun, Dieu va intervenir. Soit il va rendre cette épreuve moins pénible, comme j'ai oublié de le lire d'ailleurs, parce qu'il faut aller vite, comme avec Moïse, il va donner de son esprit à un certain nombre de membres du peuple d'Israël pour venir en aide à Moïse, pour qu'il ne soit plus tout seul à supporter toute la charge. Et puis il va apporter aussi une solution, il va envoyer des cailles pour que le peuple mange de la viande. Donc Dieu intervient de diverses façons. Il peut atténuer l'épreuve, il peut la faire aussi disparaître, ou alors il peut augmenter nos forces pour que nous puissions la traverser, pour que nous puissions la vaincre, pour que nous puissions la supporter. Ou carrément, il peut aussi nous donner des choses que nous n'avons pas, que nous n'avons pas au départ. Mais en tout cas, jamais, 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 Dieu ne nous laissera, ne nous abandonnera pas. Moi, c'est une assurance, une conviction que j'ai, c'est que jamais, jamais Dieu ne me laissera, ne m'abandonnera. Jamais, jamais. Et cette phrase qu'il dit à Josué, il y a certains qui disent, oui, mais il parle à Josué, il s'adresse à Josué, cette promesse, elle est pour Josué. Ben non, elle est pour nous tous. Jamais, jamais, Dieu ne nous laissera tomber. Jamais il ne permettra qu'une épreuve soit au-dessus de nos forces. Et il fera ce qui est nécessaire pour que nous puissions la supporter. Alors je voudrais bien revenir à Moïse. Et lorsque Moïse dit « Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux ?» Ça veut dire un peu qu'on se culpabilise. « Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et il y a une phrase qui est très populaire, qu'on utilise même un peu n'importe comment, et c'est « Qu'est-ce que j'ai fait au Dieu qui est bon ?» Je préfère dire « au Dieu qui est bon » plutôt qu'au bon Dieu, parce que cette expression est utilisée, galvaudée, est utilisée parfois à mauvais escient. « Qu'est-ce que j'ai fait au Dieu qui est bon ?» Et bien souvent, on dit « Qu'avons-nous fait au Dieu qui est bon ?» C'est une question que on se pose beaucoup. Alors, effectivement, nous avons fait quelque chose qui a offensé Dieu. Nous lui avons désobéi, nous l'avons mis de côté, nous l'avons rejeté. Nous avons voulu nous passer de lui et connaître le bien et le mal par nous-mêmes. C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas d'hier, ni d'avant-hier, c'est depuis la création. L'homme a voulu connaître le bien et le mal par lui-même. Alors il a peut-être connu un peu le bien, mais il a surtout connu le mal. Alors Dieu est amour, mais aussi infiniment saint et juste. Et nous ne pouvions pas nous présenter devant lui avec notre péché. et nous ne pouvons rien faire pour satisfaire à sa justice. Je me rappelle quand j'étais à l'école, quand j'avais reçu une punition, c'était rare parce que j'étais gentil. Hein. Mais ça arrivait que je recevais une petite punition. Alors j'allais trouver l'instituteur et je disais, « Monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour me racheter ?» Alors, parfois, l'instituteur disait, écoute, si j'ai pas de remarques jusqu'à la fin du cours, je lèverai la punition. Mais parfois aussi, l'instituteur disait, non, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire, c'est comme ça. Tu dois assumer. Et alors, c'est la même chose pour cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvions rien faire. Effacer notre péché. C'était une épreuve au-dessus de nos forces. Mais Dieu, qui est miséricordieux et gracieux, n'a pas permis que cette épreuve soit au-dessus de nos forces. Alors, sachant que nous n'avions pas le moyen de nous sauver par nous-mêmes, Dieu a préparé le moyen de nous en sortir. C'est pour ça qu'il a donné Jésus, afin qu'il prenne sur lui la condamnation que nous méritions. Et comme l'a dit dans sa prière notre frère Daniel tout à l'heure, dans Romains au chapitre 8, au verset 1, Paul dit, affirme, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Êtes-vous en Jésus-Christ ce matin? Est-ce que ce matin vous pouvez dire, il n'y a plus aucune condamnation pour moi parce que je suis en Jésus-Christ? Alors certains diront, qu'est-ce que je dois faire pour être en Jésus-Christ? Justement, il ne faut rien faire. Justement, ce n'est pas faire. Dieu ne demande pas que nous fassions preuve de nos capacités, de nos pouvoirs extraordinaires, comme le disait cette émission télé. Il ne nous demande pas des actions extraordinaires, des œuvres extraordinaires. D'ailleurs, tous les pouvoirs extraordinaires du corps humain ne pourraient suffire. Ce que Dieu demande simplement, c'est que déjà, on reconnaisse. Je reconnais que je suis un pécheur. Alors, reconnaître, ça peut être facile. Vous savez, quand le juge demande à l'accusé, est-ce que vous reconnaissez les faits? S'il n'a pas trop le choix, parce que... Ou peut-être que son avocat lui a dit, écoute, il vaut mieux que... Hein, bon, ça t'attirera l'indulgence du juge. Alors il va dire, monsieur le juge, je reconnais les faits. Mais il n'a aucune repentance, il n'a aucun regret. Le seul regret qu'il a, c'est qu'il s'est fait attraper. Hein. Mais en plus de reconnaître, il faut aller plus loin, il faut que... il faut que je me repente de cela. C'est-à-dire, repentance, ça veut dire un regret immense. La repentance entraîne une tristesse, mais heureusement pas une tristesse comme celle qui vient du monde et qui nous pousse au désespoir, mais une tristesse qui vient de Dieu. Et cette tristesse qui vient de Dieu, elle nous afflige un moment, mais puis après, elle fait en sorte qu'elle nous pousse à la repentance et elle nous pousse à nous tourner vers Dieu et à lui demander pardon. C'est ça la repentance. Et c'est ça que Dieu demande. Et heureusement pour nous que Dieu, sachant que nous n'avions pas les capacités par nous-mêmes de nous en sortir, heureusement, il a trouvé la solution et l'a donné Jésus afin que par son sacrifice, la sainteté de Dieu et la justice de Dieu puissent être satisfaites. Voilà. Voilà ce que j'avais appris à vous partager ce matin. Merci de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse.